Ce soir, on veut parler un petit peu des cochons, des gros porcs, les vrais maîtres de la Suisse et de comment ils tiennent l'industrie, l'État, l'armée, les moyens d'information, le pouvoir. De nos représentants à Berne siègent sur au moins un conseil d'administration. Siéger sur un seul conseil d'administration peut rapporter entre 80 000 et 220 000 francs par an en jetons de présence. Un de nos députés, d'ailleurs, siège sur 61 conseils différents. C'est un record. Et si par hasard un député d'un parti bourgeois n'est pas homme d'affaires avant d'être élu, on l'invite tout de suite à le devenir. Par exemple, une femme, suivez mon regard, professeur de français de son état, accède dès son élection au Conseil des États au conseil d'administration d'une des plus grandes banques du pays.
Oh, dis, lisons, peut-on plus mal agir? Un mot de plus, monsieur, je vais rougir. Il faut que la dame soit nue, que sa main partout s'insinue. Oh, dis, lisons, peut-on plus mal agir? Un mot de plus, monsieur, je vais jouir.
Ce système aboutit parfois à des situations cocasses. En 1972, débat au Parlement. Le député pacifiste Arthur Villard dénonce l'utilisation par l'aviation américaine au Vietnam de l'avion suisse Pilatus Porter. Extrêmement mobile, ce petit avion peut voler au ras des arbres et sert notamment à détecter les petites unités de guérilla ou les villages cachés dans la forêt. Dès que les hommes sont localisés, le pilote jette une bombe fumigène, signalant ainsi l'objectif aux bombardiers fantômes qui, quelques minutes plus tard, viennent incendier les villageois. Arthur Villard demande au gouvernement d'interdire la vente des appareils Pilatus Porter aux États-Unis et à leurs alliés, notamment aux Australiens. Immédiatement, un député de Bourg monte à la tribune et déclare que le Pilatus Porter est un avion très lent, très fragile, ne portant ni bombe ni fusée et qui de ce fait ne peut être considéré comme un avion de guerre. Le gouvernement et la majorité du Parlement se rallient avec enthousiasme à ce point de vue. L'homme qui bénéficie de ce beau succès, avocat d'affaires et député de Nidwald, s'appelle Albrecht. Il est président de la société qui fabrique les Pilatus Porter. Cette société elle-même appartient au Trust Burley Holdings. Mais les députés, les conseillers fédéraux, etc., ne sont pas les vrais maîtres de la Suisse. La plupart sont des hommes de paille, des hommes de main, de minables grimpeurs, technocrates bornés. Ziegler dit que des super cochons, Il n'y en a que 26.
M'en revenant au pays, m'en revenant au pays, j'ai rencontré trois amis. M'approchant d'eux, je leur dis, que se passe-t-il par ici? C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri. Pardi. Le premier me répondit, le franc ne vaut plus un radis. Le pain est au prix du biscuit, l'or est moins cher que le riz. C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri. Ici. Le deuxième a renchéri, au loin on entend des cris. Des cris, des coups de fusil, et tout cela signifie. C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri. Mais oui. Le troisième n'a rien dit, il pleurait sur son ami. Elle est repartie dans son pays, y a plus de travail ici. C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri. J'ai remercié les trois amis, pris mon sac et suis parti. Et de tout ce qu'ils m'ont dit, moi j'ai retenu ceci. C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri. C'est toujours les petits qui se mouillent quand viennent l'automne et la pluie. C'est toujours les petits qui se mouillent, les gros sont bien à l'abri.
En procédant à une analyse comparative des mandats de conseil d'administration, nous retrouvons une sorte d'élite du pouvoir de 26 personnes dont l'influence s'étend à tous les secteurs clés de l'économie. Ces hommes contrôlent des richesses colossales et exercent un pouvoir aussi secret que violent et efficace.
Ces 26 hommes s'appellent par exemple Sulzer, Schmidani, Burlet, Devecq. Tiens, prenons celui-là, Devecq, Philippe, président de l'UBS. Ziegler dit que c'est un des principaux souteneurs de l'Afrique du Sud et de l'apartheid en Europe. Par ailleurs, il siège sur un nombre indéterminé de conseils d'administration, dont Secheron et la CIP. À Genève, il s'occupe ces temps-ci de rationaliser, restructurer la métallurgie. Et il y a 1000 travailleurs à Tarex, Gardy, la CIP et chez leurs sous-traitants qui vont probablement y perdre leur boulot. Mais tout cela doit se préparer discrètement, alors quand Chamet, le PDG de Tarex, commence à faire un peu de foin, Devecq lui écrit un mot, lettre du 4 mars 75.
Je ne saurais assez vous engager à renoncer à la tendance de traiter de tels problèmes sur la place publique, ce qui ne pourrait que m'engager à un repli total. Ces problèmes sont réglés par des actes et non par des interventions de personnes tierces qui n'apportent rien de concret.
Les personnes tierces, vous l'avez deviné, ce sont les travailleurs dont le travail a créé Tarex, enrichi Devecq et ses semblables, et qui seront foutus à la rue sans que personne ne les consulte ni les prévienne.
Devecq, permettez-nous de prendre cette occasion pour vous dire que vous êtes une ordure.
bien au chaud, les yeux dans la bière. Je suis la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
Aujourd'hui, nous avons la joie d'interviewer M. Jean Breuillet, qui sera notre cochon du jour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos activités, M. Breuillet ?
Je suis donc député libéral au Grand Conseil, administrateur de la banque Rothschild, régisseur avec une centaine de jolies petites sociétés immobilières à Aulnay, Vernier et Mérin. Je suis également président de l'association des gérants d'immeubles.
Qu'est-ce que cette association, monsieur Jean Breuillet ?
Disons, le cartel des régisseurs. C'est nous qui déterminons les prix, n'est-ce pas ? Et en outre, je ne crains pas de l'affirmer, je suis vice-président de la Fondation pour la construction d'HLM de la ville de Genève et administrateur de la Fondation des logements économiques de Genève.
C'est très intéressant, monsieur. Beaucoup de choses à votre actif.
C'est ça, oui. Ça peut être utile de jouer un peu sur tous les plans.
Il vaut la peine de raconter une charmante histoire au sujet de monsieur Breuillet. Histoire authentique, d'ailleurs. L'autre jour, il a eu une tâche délicate. Il fallait expliquer à un journaliste de la Tribune, qui était curieux, pourquoi avec 7000 logements vides à Genève, les loyers ne baissent pas. La vérité toute nue, c'est que dans le cartel, les régisseurs se sont entendus pour maintenir les loyers à un niveau artificiellement élevé. La sainte loi capitaliste de l'offre et la demande, c'est bon pour faire baisser les salaires, évidemment, mais pas les loyers. Mais M. Breuillet est un homme tellement cultivé, les choses les plus scandaleuses paraissent respectables, comme il l'est dit.
Il faut voir qu'en baissant les prix, on pourrait peut-être obtenir un résultat personnel, mais on n'en résoudrait rien sur l'ensemble.
Un résultat personnel, vous entendez ?
Je pourrais remplir mes appartements à moi, mais sur l'ensemble des régisseurs, vous comprenez,
oui.
Pour remplir ces appartements, il faudrait prendre des clients ailleurs.
Ah oui.
Oui, vous comprenez.
Il y aurait toujours des appartements vides. Simplement, les loyers de tout le monde seraient moins élevés. Quelle horreur! En effet, pour les régisseurs, ça ne résoudrait rien. Et qu'en pense le monsieur Breuillet qui se préoccupe d'habitations à loyer modéré? Et le monsieur Breuillet, député? Ça, l'histoire ne le raconte pas.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
Puis toi, Breuillet, tu paies combien de loyers?
Vous savez, et moi, les loyers sont tellement élevés de nos jours. Je trouve plus intéressant d'être propriétaire.
Ah oui, ça vaut la peine de voir ta propriété. 14 chemins de conche, ça vaut vraiment le détour. 2 maisons, des terres qui descendent jusqu'au bord de l'Arve, une petite forêt, un terrain de football. Ça doit être fantastique le soir. Tu dois pouvoir regarder à la jumelle tes petits cubes de béton qui te rapportent tant, vieux salaud.
Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient.
À part ça, M. Breuillet n'aimera sûrement pas qu'on raconte partout que des centaines de locataires d'Aunay se sont regroupés pour s'opposer à la dernière augmentation de loyer. Pour le moment, ils épuisent les recours légaux. Mais ensuite, supposons qu'ils refusent en bloc, qu'ils se mettent eux-mêmes à réduire leur loyer. Ça se fait ailleurs et ça marche. J'aimerais bien voir ta tête si un jour tu prenais tes jumelles et que tu voyais tes cubes gris recouverts de banderoles rouges.
Ici Radio Pirate 101.
Jeunes citoyens, je vais vous lire maintenant le règlement de service, article 104. L'école de recrue fait du jeune homme un soldat conscient de ses devoirs. Elle doit éveiller en lui la joie de servir. Aussi, le règlement du service, page 31. Le soldat accomplit son devoir jusqu'au bout, même s'il ne comprend qu'imparfaitement le sens de ce qu'il doit faire. La discipline, c'est le dévouement absolu du soldat qui se donne corps et âme à son devoir. En colonne par deux, marche! Redressez les têtes, la casque à la hauteur des yeux, ceinturon à l'heure. Toujours le règlement de service. La confiance se fonde avant tout sur la personnalité du chef, à la guerre comme en temps de paix. C'est à la personnalité du chef que se mesure la valeur de la troupe.
Quand vous ferez la guerre, ne comptez pas sur moi, messieurs les militaires, pour jouer aux soldats, pour tirer sur des hommes sans demander pourquoi, pour vous obéir comme vous l'espérez, je crois. Vous avez cru me prendre quand je vous ai suivi. Moi, je voulais apprendre à tenir un fusil. Je ne veux pas défendre n'importe quel drapeau. Je veux d'abord comprendre à qui j'offre ma peau. Quand vous ferez la guerre, vous la faites aujourd'hui. Messieurs les militaires, dans de lointains pays, vous semez la misère, la mort pour le profit de grands hommes d'affaires qui sont au chaud ici, qui gardent leurs mains blanches, qui ont de beaux habits, des habits du dimanche, même le mercredi. Êtes-vous donc si bête pour être si odieux? Non, simplement vous êtes du même monde qu'eux. Vous êtes de la race des maîtres et des seigneurs. Il n'y a pas de place pour vous dans mon cœur. Tout au long de l'histoire, vous avez exploité les miens pour votre gloire. L'auriez-vous oublié? Et vous voulez me faire croire que nous venons tous de la même terre? Je vous réponds que non. Quand vous ferez la guerre, je choisirai mon camp. J'irai avec mes frères, avec les pauvres gens. Voilà ce que je pense, messieurs les officiers, tortionnaires en puissance, valets des financiers. Nous n'avons pas le même intérêt, vous et moi, et la couleur que j'aime, vous ne l'aimez pas. Juste encore une chose, avant de vous quitter, une question que je pose en toute humilité. Pourrez-vous me comprendre si je vous remercie? Vous avez su m'apprendre à tenir un fusil.
Face au désintérêt croissant de nos jeunes pour la chose militaire, nous préconisons de suivre les conseils de M. Oswald.
Les cheveux pourront avoir 2 cm de plus. On renoncera au port obligatoire des gants pour les officiers. Les repas ne seront plus pris par catégorie de grades séparés. Il faut distribuer davantage d'insignes de distinction. Il faut enseigner davantage dans les écoles d'officiers et de sous-officiers à convaincre une troupe ou un homme isolé. Les privations, les fatigues physiques et psychiques contribuent à développer la volonté, la capacité de résistance et la camaraderie. Dans la tempête du combat moderne, sous l'efficacité prodigieuse du feu des armes, le combattant soumis à une inimaginable contrainte psychique et physique n'est plus à même de faire que ce que l'instruction lui a fait passer dans la profondeur de tout son être.
En 1942, alors que j'étais à l'armée, On était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con y avançait. Le sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con y avançait. Le sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. On avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il voyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. De cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne vous sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à...
Si l'école de recrues n'existait pas, il faudrait le créer, le livre du soldat.
Radio Pirate 101.
demain à 8h, comme d'habitude. Ici Radio Pirate 101.
Ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. La pollution, les mêmes autos, les mêmes patrons, les mêmes impôts, les petits, les gros, dans un même bateau. Ceux qui sont partis chercher un ailleurs meilleur, ont bien compris en d'autres pays, en d'autres Amériques, Espagne ou Marseille, à part le soleil, que c'est partout pareil. Vivre en ce pays, aux États-Unis, les mêmes danses.
Dans la rubrique « À Genève comme ailleurs », ou comme nos édiles se plaisent à le rappeler quand ils reçoivent à bras ouverts Le Chat, Gromyko et Spinola, « Genève, terre d'asile ».
Ceux qui sont partis pour chercher un ailleurs plus loin, un monde en fumée, d'amour et de paix, un monde nouveau, parti à zéro, comme à San Francisco.
Monsieur Foy, procureur général, avait un gros chagrin. Un propriétaire voulait détruire une vieille maison pour pondre un cube à la place et n'arrivait pas à se débarrasser de deux dames qui, allez savoir pourquoi, refusaient de quitter ces lieux qu'elles aimaient bien parce que là sont leurs amis, là se mélangent le présent et le passé dans tous les gestes de la vie. Et pour mille autres raisons connues d'elles seules. Monsieur Foy avait du chagrin parce qu'il avait épuisé toutes les ressources habituelles de la loi et que ces dames étaient toujours dans leur bon droit. Et pourtant, ce qu'on leur offrait, c'était beaucoup plus joli. Une arcade tout en plastique, éclairée tout au néon dans un machin tout en béton. Mais contre toute logique, ces dames ont obstinément refusé d'y aller. Cela justifiait bien, vous en conviendrez, une expertise psychiatrique. Et ma foi, c'était en tout cas l'avis du conseil de surveillance psychiatrique qui, sur le champ, adressait une invitation à ces dames. Celles-ci, conseillées par leur avocat, refusèrent avec la même obstination. C'en était trop pour Monsieur Foy, qui connut alors les affres du tourment. Une nuit, Monsieur Foy, couvert de sueur et tout tremblotant dans ses draps de satin, sortait d'un horrible cauchemar dans lequel il hurlait « Niet, niet » comme une terne devant un aréopage d'hommes impassibles et tout de blanc vêtus qui prenaient des notes. Le lendemain, il courut au conseil de surveillance psychiatrique qui délégua séance tenante un psychiatre musclé. Celui-ci débarqua à l'improviste par une belle après-midi chez les dames récalcitrantes. Et quelques jours plus tard, une escouade de flics accompagne deux infirmiers pour l'interner de force. La dame, pas le psychiatre. Heureusement que ces dames ont hurlé, qu'elles se sont débattues, que les avocats sont venus, que les gens du quartier sont venus, parce que comme ça, les flics ont dû repartir hués par la foule et les infirmiers sont repartis planter leurs seringues dans des culs moins bien défendus.
À zéro, comme à San Francisco. Pays,
étudiant en droit au discours virulent est arrêté par les flics pour être interné de force et subir un examen médical à l'hôtel de police. Il sortait de son dernier examen qui portait sur les libertés individuelles et pour lequel il avait obtenu la note de 5,5. À Bel Air, après quelques jours, alors qu'il demande impatiemment pourquoi et pour combien de temps il était là, on l'endort de force pour 6 jours. Ça détendra l'atmosphère, dit un médecin, parce qu'il souffre d'une maladie très grave, c'est un quérulent. En d'autres mots, il emmerde l'administration qui en a assez d'être dérangé, comme s'il n'était pas payé pour ça. Heureusement que dans l'université s'est formé un mouvement qui est monté à Bel Air pour exiger sa libération et poser quelques questions à ces messieurs. Comme par hasard, il n'était plus malade. Il avait été libéré le matin même.
San Francisco.
Heureusement que parfois, il y a des heureusements, parce que ce conseil de surveillance psychiatrique, ça fait longtemps qu'il fonctionne sans qu'on en parle. Qui décide qui est fou? Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais vécu avec vous? Quelqu'un avec qui ne vous êtes jamais promené, avec qui vous n'avez jamais travaillé, ni fait l'amour, ni discuté de choses qui vous intéressent? Vous, d'égal à égal, sans que lui ait sur vous un pouvoir, celui de vous déclarer fou par exemple, ou simplement de noter sur vous des choses que vous ne pourrez jamais lire. Derrière le bureau, il y a un diplômé dont c'est le gagne-pain et qui le défend chaque fois que vous, le fou, lui posez une question qui le remet personnellement en cause ou qui met sa fonction en cause. Et son métier à lui, c'est de rendre acceptable ce qui est inacceptable. Le travail, l'argent, le bruit, la planète qui crève, le sexe triste. Et tout ça parce que les seules valeurs reconnues et admises sont celles des mâles blancs, des petits impérialistes, ceux dont la vie n'est rien d'autre que leur peur de vivre et leur haine pour tout ce qui vit. Qui sommes-nous? Nous sommes les fous aux regards clairs qui ont appris qu'il existe une vie avant la mort. Une vie dans laquelle la force et le pouvoir ne sont que des hochets. Les hochets de ceux qui, comme les héros, n'ont de courage que pour tuer et pour mourir. Nous sommes les enragés qui veulent plus travailler, qui laisseront pas crever la terre, la mer, l'air, le soleil. Nous sommes les nègres de toutes les couleurs, de tous les âges et de tous les sexes. Et nous nous battrons jusqu'à la vie.
C'était notre rubrique Genève, terre d'asile. Parfois, quand on lit un livre, on a le sentiment profond que ce qui est écrit, c'est à la fois ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et en même temps c'est autre chose, puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Voilà quelques bouts piqués dans deux livres, l'un « Paroles de femme » d'Annie Leclerc, et l'autre « Texte libre » du docteur Carpentier, médecin de quartier. Vous pouvez les voler dans toutes les bonnes librairies. Petit échantillon des problèmes se présentant chaque jour à un médecin de quartier. Madame K, 37 ans, deux enfants, très sympathiques, malaise et petite perte de connaissance au travail, transplantée, ne connaît personne, hypotension, couple apparemment ouvert, on discute du travail ennuyeux et du manque de contact avec les gens. À la quatrième consultation, on me dit qu'elle n'a plus fait l'amour depuis 3 ans, que c'est dramatique et peut-être inguérissable. Douleur intolérable au moment des rapports sexuels.
Mademoiselle T, 19 ans, ouvrière, timide et repliée sur elle-même, se trouve trop grosse. En fait, n'a rien d'une obèse, mais le pilonnage audiovisuel, qui détermine en ce domaine la normalité, c'est-à-dire la beauté, se charge de fournir les cabinets médicaux de régime miracle. Il serait important de faire savoir que la première des choses est d'accepter son corps tel qu'il est et de l'utiliser joyeusement. Il est beau, les gens heureux seront beaux, c'est seulement après cela que l'on pourrait envisager le problème de l'obésité. Mais cette démarche n'est pas...